Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Désolé de ce léger contretemps, on a eu un petit souci. Et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne année au nom de toute l'équipe de Au bout du foot. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On va commencer l'année très bien avec le beau football qu'on a eu ces premiers jours, déjà avec des excellents buts. J'espère que l'année a bien commencé pour toi, Lucas. Comment ça va ?
Ça va super et toi ?
Ça va super, t'as passé de bonnes fêtes ?
Très bonnes fêtes. L'année a bien commencé avec un titre pour le PSG, donc ravi.
Donc super pour toi.
Super.
Et toi Léo ?
Salut Eladj, bonne année à tous. Moi aussi, écoute, l'année elle a bien commencé. Bon bah pas de titre pour l'OL, mais on va se rattraper d'ici mai. Hein.
On espère pour vous. Alexandre, comment ça va ?
Ça va, apparemment on fête les titres en carton, donc on va commencer à fêter la Super Coupe d'Espagne, donc ça va super.
Ah ok. Bah super, alors et toi Ibrahima ?
Salut, bonne année à tous, salut Eladj. Bah ça va, l'année en football ça a bien commencé, même si on est obligé de jouer des matchs à l'autre bout du monde, en plein milieu de saison, chose que je comprends pas trop, mais bon, je pense qu'on en parlera.
Chose avec laquelle tu n'es pas trop en accord apparemment.
Ah bah non, c'est n'importe quoi, mais je m'exprimerai là-dessus plus tard.
On y arrive. Bien évidemment, nous allons parler du Paris Saint-Germain et de la remise... Surtout du trophée qui a eu lieu au Qatar. Nous allons aussi évoquer bien évidemment le Boxing Day et la Première Ligue qui ne s'est pas arrêtée, hein, vraiment, comme d'habitude. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à ce moment-là. Comme on dit, le Boxing Day, on ne gagne pas de titre, mais on peut en perdre. Et on pense qu'en tout cas, il y a certains clubs qui ont fait la mauvaise opération. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la Première Ligue. Hein. Je pense que c'est ce qu'on a pu regarder depuis le début et suivre aussi notamment. Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? T'as passé un bon Boxing Day ? Est-ce que t'as regardé des bons matchs
J'ai regardé des matchs moins beaux aussi. Mais ouais, je pense que Liverpool a un peu plié malgré leur match nul hier contre un United qui a eu un petit sursaut dans le jeu. Je pense que je disais il y a quelques semaines encore que le championnat m'avait pas l'air encore plié. Là, avec, je crois, 9 points, 6 points d'avance.
6 points d'avance, c'est un match en retard,
c'est ça. Mais avec Arsenal qui n'a pas su gagner des matchs faciles. Quand Liverpool faisait nul, ils ont fait nul aussi, en fait. Donc, ils n'ont pas réussi à récupérer de points. Je pense que là, je vois ni Nottingham Forest tenir le coup, ni City revenir avec tout le retard qu'ils ont. Donc, je pense que Liverpool, a fait un pas vers le titre, un premier pas. Et après, le reste, j'ai vu des beaux matchs. City qui s'est repris après plusieurs résultats négatifs, 2 victoires d'affilée, même si c'est contre des équipes assez faibles. Haaland qui marque à nouveau. Voilà, on voit que le championnat est un peu reparti, les gros se reprennent. Et United qui, malgré son nul hier, continue à être décevant. Mais c'était intéressant.
United qui ont enchaîné une mauvaise passe et qui viennent de stopper, on va dire, cette série de défaites face à Liverpool à Anfield. Hein, on y croyait beaucoup moins encore à ce moment-là, surtout avec une équipe de Liverpool très en forme, on l'a vu. Toi, Alexandre, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Honnêtement, là, si je m'attarde sur le match d'hier, j'ai regardé la première mi-temps pour être honnête. J'étais un peu déçu du niveau de la première mi-temps. J'ai trouvé ça un petit peu que ça ronronnait un petit peu. Mais agréablement surpris par Manchester United puisqu'ils ont su tenir tête. Je crois que ça faisait, je sais plus, je crois 5 ou 6 ans qu'ils n'avaient pas marqué un but à Anfield ou quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est une bonne performance d'en inscrire 2. Et sinon, après, voilà, Première Ligue. Je trouve ça assez étonnant que... Enfin, étonnant non, mais décevant que des clubs comme Manchester United ou même Tottenham, je ne sais pas si on pourra en parler, mais Tottenham, ce qu'ils proposent dans le jeu, c'est... Dans le jeu, dans les résultats, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'un joueur comme Harry Kane, qui était vraiment ultra important pour son équipe. Et Manchester City qui se relance, comme a dit Lucas, après une victoire notamment contre West Ham. On en parlait en off avec un West Ham qui, malgré son bon effectif, est vraiment très mauvais dans le jeu. Très mauvais dans le jeu à l'image de cette erreur technique de Kudus sur le deuxième ou troisième but, je sais plus. Cette erreur technique de Kudus qui vient sceller le sort de West Ham. Et City qui se relance à quelques semaines, à quelques encablures du match contre le Paris Saint-Germain.
Ça a l'air de te faire plaisir.
Je sais pas si ça me fait plaisir, mais je sens qu'on aura un très bon débrief le lundi qui suivra.
Et toi, Ibrahima ?
Pour revenir sur ce qui se disait, on voit bien que Liverpool a clairement une longueur d'avance sur le reste de ses concurrents, que ce soit au niveau du jeu ou même purement au niveau des points. C'est mathématique, là ils sont à 6 points d'avance, comme vous l'avez dit, avec un match en retard face à Everton en plus, le derby. Après moi, là où j'ai plus de choses à dire, c'est plus au niveau, j'ai pas mal de déceptions quand même par rapport à cette première moitié de saison et à ce Boxing Day, notamment une équipe comme Tottenham, comme l'a dit Alexandre, que je voyais quand même, ils n'ont pas un effectif dégueulasse, je les voyais quand même beaucoup plus haut que ça en championnat. Aujourd'hui, ils sont 12e. Franchement, avec les joueurs qu'ils ont, il y a des joueurs quand même comme Pape Matar Sarr, même Solanke qui avait fait une bonne saison à Bournemouth, il n'est pas dégueu. Il y a Brennan Johnson aussi qui n'est pas mauvais, Maddison, et voir qu'il propose un jeu aussi médiocre avec si peu de points au final, c'est assez décevant. Il y a des bonnes surprises aussi, Newcastle qui sont sur 6 victoires d'affilée.
Mais ils reviennent bien.
Ils reviennent
avec
bien.
Alexandre Isak, avec Alexandre Isak,
excellent attaquant. Gordon aussi qui n'est pas mauvais du tout. Ouais. Tonali aussi qui revient plutôt pas mal, c'est plaisant à voir. Et moi, la plus grosse surprise là, c'est surtout Nottingham. Surtout. Franchement, actuellement, à l'heure où on parle, ils sont 3e de Premier League. Avec un match en moins, il y a des bons joueurs, notamment Aina, Chris Wood, l'attaquant aussi, il n'est pas mauvais. On sait qu'il y a deux saisons auparavant, ils jouaient le maintien. Et les voir aussi haut cette année, franchement, j'aurais pas misé là-dessus.
Le maintien est assuré. Hein. C'est ce qu'ils devaient jouer, eux, déjà de base. Mais aujourd'hui, on peut dire que le maintien est assuré. Ils ont, bien évidemment, 21 points, plus un match en retard sur la zone de relégation. On peut dire qu'ils sont, ils sont sortis d'affaires. Bon, pas au niveau comptable officiellement, mais...
Il y a plus faible, hein, donc.
Il y a plus faible et ils viennent de passer la moitié de la barre. Donc oui, c'est...
Et Chelsea aussi qui patine un peu. Je pensais qu'ils allaient enchaîner. Ils avaient une bonne passe, mais là, ils patinent un peu. Ils sont sur
4 matchs
sans victoire, dont 2 défaites. Bon, je pense qu'ils vont se relancer, mais je pensais qu'ils allaient enchaîner plus que ça. Quand même, c'est ma petite déception, moi, personnellement.
Bah, comme on dit, au Boxing Day, il y a des équipes qui perdent le titre. Et est-ce que là, c'est le cas pour Chelsea, Léo? Est-ce que tu en penses? Après ces résultats, hein, à Everton, ils butent sur un Pickford 0-0. Et ensuite, sur Fulham, ils se font prendre dans le temps additionnel. Un peu, ils se font surprendre par une équipe de Fulham qui les renverse. Fulham aussi, qui font un très bon début de saison. Et ensuite, ils vont perdre à Ipswich 2-0 et ensuite à Crystal Palace aussi ils gagnent 1-0. Pendant tout le match ils essaient de garder ce résultat et à la fin ils se font punir par Mateta 1-1 et ils n'arrivent pas à marquer le but des 3 points. Donc là 4 matchs, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls, 2 petits points sur ces 4 matchs là, alors qu'on ne voit pas spécialement de top 6 de grosses équipes à l'intérieur, hein. Crystal Palace, bon, Fulham à la limite, mais encore Everton et Ipswich. Pour toi, est-ce que Chelsea ont beaucoup perdu? Enfin, je pense que c'est les plus gros perdants, même de ce Boxing Day.
De base, déjà, je comptais pas Chelsea parmi les prétendants au titre. Il y a quelques semaines, je voyais déjà Liverpool. C'est vrai que le Boxing Day m'a conforté dans mon idée. Je pense, j'ai été assez déçu hier de leur match, parce que je pense que Manchester United a fait un match... Pas dans ses standards, parce que voilà, on sait que récemment c'est un petit peu plus compliqué, mais ils se sont bien adaptés, ils ont joué sur le point faible de Liverpool, à savoir le dos d'Alexander Arnold, qui a été catastrophique hier, tant dans le jeu que dans l'attitude. Mais je pense que c'est pas Manchester United qui a été chercher le point, mais plutôt Liverpool qui leur a cédé. Il y a eu un manque d'intensité criant, et d'ailleurs, on a vu que les deux seules fois où ils ont accéléré, ils ont marqué. Donc voilà, ils ont des points d'avance, ils en ont 6, possiblement 9, plus 1, parce qu'il me semble même qu'ils ont près de 30, ils sont à plus 30 en goal average, donc ce qui est non négligeable dans un championnat comme la Premier League. Après Chelsea, voilà, ils ont de quoi faire tourner en plus leur effectif. Ils vont jouer la Ligue Europa Conférence, donc peu importe ce qui se passe en championnat, ça influencera pas leur performance en Europe. Ils ont beaucoup perdu, effectivement. On a parlé de Newcastle, qui a commencé un petit peu de manière hésitante, parce que voilà, Newcastle, l'organigramme, il a subi beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. En termes d'effectifs, et Dio, il gère à la perfection. Il y a un effectif de qualité aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, qui peuvent se targuer d'avoir un aussi bel effectif. Et puis, pour finir, ouais, Manchester City qui se relance un petit peu. Mais après, on a vu qu'il s'était relancé il y a quelques semaines avant de replonger. Donc bon, on va attendre un petit peu avant de parler de vraiment de nouveaux souffles.
Merci Léo. On va revenir sur les résultats. Hein. Comme on disait, Liverpool premier avec 46 points et 19 journées, dont une journée en moins. Arsenal qui ont 40 points, qui sont deuxième. Nottingham Forest qui joue ce soir et qui sont à 37 points, qui peuvent revenir à hauteur de Arsenal. Chelsea avec 36 points, quatrième. Newcastle cinquième avec 35 points. Et Manchester City qui revient dans le top 6 hein, avec 34 points et juste devant Bournemouth. Et dans la zone de relégation, il y a Ipswich qui sont 18e avec 16 points, Leicester qui sont 19e avec 14 points et Southampton, on pense que les carottes sont cuites, avec 6 points seulement. C'est l'un des pires total au niveau de cette journée-là depuis très longtemps en Première Ligue. C'est pour ça que le dernier coach a été limogé juste avant les fêtes. Nous allons se faire une petite virgule avant d'arriver juste après avec la Ligue 1. La Ligue 1 qui a repris, qui a bien repris, et le Trophée des Champions. Trophée des champions, un match délocalisé au Qatar. Le Paris Saint-Germain qui commençait comme d'habitude, hein, qui a dominé le jeu mais sans marquer. Et à la fin, qui réussit à trouver la faille avec un Ousmane Dembélé qui a juste à pousser la balle dans les cages vides. 1-0, Paris Saint-Germain, ça le gagne au bout de 90 minutes. L'essentiel est assuré. Et Monaco qui ont un peu déçu aussi sur leur performance. Lucas, toi qui es content de ce résultat, qu'est-ce que tu en penses de ce match ?
Alors j'étais content du résultat, mais j'étais un peu sur ma faim concernant le contenu. Puisque je pense que le match qu'on a vu hier, il résume un petit peu ce qu'on dit depuis le début de saison sur le PSG. C'est-à-dire se créer pas mal d'occasions, arriver à mettre du déséquilibre, mais ne pas réussir à conclure. Et encore, je ne trouve pas que le gardien de Monaco, à part sur les actions d'Hakimi, et de Gonçalo Ramos juste avant le but, ne fasse vraiment des arrêts spectaculaires. Vraiment, c'est juste, il tient la baraque. Et on voit qu'encore une fois, Paris joue un peu contre nature. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de boulevards. Il y a des moments où il y a des possibilités de jouer dans la profondeur, d'aller très très vite en contre-attaque, et que Paris s'interdit de jouer comme ça, et qu'ils font tourner, et qu'on voit qu'en fait, la seule action où ils ont été vite du match quasiment, ils arrivent à marquer dessus. Donc c'est un petit peu... C'est un petit peu étrange. On voit aussi que Gonçalo Ramos, dès qu'il est rentré, il a réussi à peser. Et donc, c'est un petit peu à se demander pourquoi est-ce que Luis Enrique fait ces choix-là. Pourquoi est-ce qu'il continue à s'entêter avec Lee Kang-in sur le côté droit et Dembélé en faux neuf. Enfin, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Et Luis Enrique aime à dire que ses équipes elles vont progresser à partir de janvier, que c'est là qu'on voit les vraies équipes, etc. Moi, je n'ai pas vu de progression dans le match d'hier.
28 tirs, 10 cadrés, un seul but. Ibrahima.
C'est toujours la même chose, hein. Comme l'a dit Lucas, il y a toujours ce manque d'efficacité-là du côté du Paris Saint-Germain. Après, je vais suivre ce qu'a dit Lucas. Il va falloir que Luis Enrique s'oblige, limite, j'ai l'impression, à mettre un attaquant, parce que c'est plus possible les faux numéro 9. À chaque fois que Gonçalo Ramos rentre, on sent qu'il y a un changement, on sent tout de suite qu'il y a un point de fixation devant, qu'il y a une possibilité de centre. Enfin, le jeu est... D'un coup, le jeu est ouvert à plus de possibilités, donc il va falloir mettre un attaquant s'il veut aller loin en Ligue des Champions, enfin, déjà se qualifier en Ligue des Champions et pouvoir se mettre plus de chances de son côté de marquer des buts. Parce que si en continuant comme ça, ça ne va pas être possible avec Lee Kang-in en faux neuf ou Dembélé. Enfin, des fois, ça permute, on ne comprend plus rien. Ça risque d'être assez compliqué.
Un manque d'inefficacité énorme. Hein. Il a maintenant Désiré Doué à plus de temps de jeu aussi, parce que là, dernièrement, il a été
Barcola
aligné.
Barcola un peu moins, du coup.
Barcola un peu moins, oui. Barcola un peu moins. Et du coup, il était titularisé à gauche avec Lee Kang-in en faux neuf. Et oui, on ne comprend toujours pas pourquoi Gonçalo Ramos ne joue pas. Y a-t-il une explication à ce choix tactique. Est-ce que tu penses que c'est un coup de bluff? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre, toi, de ce schéma tactique?
Alors, moi, comme je vous disais la dernière fois, bah, les entraîneurs, enfin, vous le savez tous, les entraîneurs catalans, ils sont très, très, très bornés. Enfin, catalan, lui, il n'est pas catalan, mais on va dire, ceux qui viennent de l'école catalane, ils sont très bornés. Et donc, dans sa tête, il s'est mis ce système de jeu, donc il va essayer de l'essorer, de l'exploiter jusqu'au bout. Mais personnellement, je pense qu'il finira par changer d'avis et avant la fin de la saison. Je pense que.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Je ne sais pas, parce que au bout d'un moment. Enfin, force est de constater que je le défends beaucoup parce que c'est pas les attaquants qui. Enfin, c'est pas lui qui tire, je veux dire. Donc, c'est les attaquants qui ratent. Parce que, comme tu as dit, il y a 10 tirs cadrés, 28 tirs, etc. Les occasions, il se les procure. Mais au bout d'un moment, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, faut arrêter d'être dogmatique et être un peu pragmatique et voir la vérité en face. Il faut un numéro 9. Parce que, comme l'a dit Brahima, dès que Gonçalo Ramos il est rentré, il y a eu déjà plus de possibilités. Non pas que Paris faisait un mauvais match, loin de là. Mais bah, c'était le pari qu'on a eu l'habitude de voir.
Et, il y a eu des gros temps faibles quand même. Hein. En deuxième mi-temps, là, de
surtout
la...
après l'heure de jeu. Là, oui.
Au début, ça allait, mais après l'heure de jeu, pendant 20-30 minutes, wow, c'était dur.
Oui, bon, après, moi, je les ai trouvés à leur niveau. Et je trouve qu'au bout d'un moment, je pense qu'il commencera par changer d'avis et à mettre Gonçalo Ramos titulaire. Et à partir de ce moment-là, s'il met Gonçalo Ramos titulaire, je pense que les résultats et les buts... vont venir tout seuls parce que je trouve que collectivement ils sont rodés. Il y a des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, même si je trouve, comme je disais, l'effectif il a un peu baissé en qualité pure. Je trouve que quand même les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Il y a des schémas de passe, mine de rien, qui sont travaillés. Il y a un collectif qui est cohérent. Donc moi je pense que les résultats vont venir et qu'il finira par mettre Gonçalo Ramos titulaire.
On espère en tout cas pour le bien du Paris Saint-Germain, parce qu'on voit tout de suite la différence quand un vrai numéro 9 est titularisé. Qu'est-ce que t'en penses toi, Léo?
Pour rejoindre ce que dit Alexandre, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dites. Et du coup, c'est ce qui provoque mon désaccord avec ces mêmes choses. En effet, on constate depuis le début de saison que Paris a des problèmes de finition. Donc effectivement, c'est pas Luis Enrique, qui est devant les cages et qui tire à côté ou sur le gardien. Le problème, c'est qu'en passant d'un mec qui est capable de justement remédier à ses problèmes, de tirer, de cadrer, de marquer surtout, parce qu'on voit que Ramos, à chaque fois qu'il rentre, il marque, c'est factuel. Même contre Lyon, par exemple, récemment, au Parc, il rentre 5 minutes, il plante. Si tu t'en passes, c'est que tu ne mets pas toutes les chances de ton côté afin de régler ses problèmes, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je ne pense pas que moi, il va changer relativement son système, parce que justement, Luis Enrique, c'est un coach de système, un coach qui veut toujours aller au bout de son idée, quitte à même échouer. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du fait qu'il va échouer forcément, puisque je pense qu'ils vont gagner la Ligue 1 avec cet effectif, avec son système, parce que ce qu'il y a derrière, ce n'est pas suffisant pour aller les titiller. Après... faut aussi voir est-ce que le système que lui souhaite mettre en place est adapté à son effectif. Alors, il y a des joueurs qui peuvent s'y fondre, effectivement. Non, d'autres, moi, j'ai un petit peu plus de mal à le penser.
Le meilleur schéma de jeu possible, c'est, pour moi, hein, personnellement, c'est 3-5-2 avec l'effectif que tu as. Parce que si tu mets Hakimi en piston et Nuno Mendes, bon, malheureusement, il a des envies de départ, mais là, tu l'as. Tu mets Nuno Mendes avec une défense Hernandez, Pacho, Marquinhos. Pour moi, déjà... tu gagnes énormément.
Ah, je suis d'accord.
Tu mets peut-être un milieu à 2 ou à 3 avec Zaïre Emery, João Neves, Vitinha qui peuvent tourner. Et devant, tu mets 2 ou 3 attaquants, donc on les connaît. Pour moi, ça, c'est vraiment le système parfait. Mais
donc toi, tu as le système parfait. Mais on va te donner les clés.
Parce que c'est les meilleurs joueurs, tu les mets dans les meilleures dispositions.
Voilà, exactement.
Mais c'est pas plus un problème d'animation que de système, ce que tu vois à Paris.
Parce que oui, tu dis, on connaît les attaquants. Mais justement, qui est-ce que tu mets devant? Parce qu'aujourd'hui,
ça dépend si t'es en
tu sors qui Dembélé ou Barcola.
Ça dépend si t'es en 3-4-3 ou en 3-5-2, mais si t'es par exemple en 3-4-3, moi je préfère
laisser 3-4-3,
les 3 devant, et okay. Je préfère mettre en double pivot João Neves, Vitinha, je pense, ou Zaïre Emery, enfin peu importe, un des trois. Mais et après, là, je peux me tromper, et je pense que je vais me tromper. Enfin non, je peux me tromper, mais je pense et j'espère vraiment que contre City, il va mettre Gonçalo Ramos titulaire. J'ai vraiment envie d'y croire. Parce que le match de City, on va pas se mentir, c'est vraiment un match couperet. Enfin, il est super important. En plus, City, comme par hasard, il commence un peu à marquer, etc. À
oui, mais contre des équipes faibles après.
Oui, je suis d'accord, mais après, c'est de voilà. La confiance. Tu vois.
Et même, oui, c'est de la confiance, mais c'est des équipes faibles. Même dans le jeu, ils sont pas bons.
Ah oui, non, là je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, dans le jeu, Paris, je suis désolé, mais je peux comprendre. Parce que moi, enfin, je ne suis pas supporter de Paris, donc j'ai vraiment du recul sur cette équipe. Et moi, j'ai vraiment envie que Luis Enrique réussisse à Paris, malgré ce qu'on peut penser. J'ai vraiment envie que Luis Enrique réussisse à Paris. Et pour moi, les matchs de Paris, on s'ennuie de temps en temps, oui, parce que tu affrontes des blocs bas, parce que chaque match a sa vérité, etc. Mais les occasions, tu les as. Et je trouve que l'effectif, collectivement, il a progressé. C'est sûr que forcément, quand tu perds un mec qui te met 40 buts, bah, c'est plus compliqué déjà. Et pour moi, si tu mets Gonçalo Ramos, pour moi, c'est vraiment la pièce qui manque. Et si tu mets Gonçalo Ramos, je suis persuadé que le club, enfin que l'équipe ira beaucoup mieux.
Voilà. Juste pour rebondir sur un truc que tu as dit quand on parlait des compositions, je pense qu'il y a un joueur qui est important si tu veux jouer avec deux pistons, c'est Zaïre Emery. Parce que
oui, il peut
Hakimi monte poste, énormément ouais, oui, c'est et vrai, c'est lui qui va venir combler derrière dans
Après,
le dos.
Après, le problème, c'est que si tu sors Vitinha, qui est vraiment un profil créatif et qui peut vraiment t'apporter aussi dans les 25-30 derniers mètres la passe, parce que c'est un peu le seul joueur qui peut t'apporter vraiment la passe
qui va casser une ligne,
voilà, qui va casser une ligne ou l'espace ou le demi espace. Si tu le sors, c'est un problème. Et Joao Neves,
pareil,
c'est-à-dire
autant dans la défensivement que dans la construction, il est trop important à Neves aujourd'hui.
Joao Neves, c'est pareil dans le jeu. Si tu mets en tout cas un 3-4-3 ou un 3-5-2, il est trop important, Joao Neves, je pense. C'est pour ça que Zaïre Emery serait un peu le sacrifié. Mais Zaïre Emery, c'est vrai qu'il pourrait jouer, il pourrait très bien remplacer Hakimi.
Mais c'est vrai qu'il y a... Pardon, excuse-moi.
Vas-y, très rapidement.
C'est vrai que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du Paris Saint-Germain et qu'on évoque ses principales menaces offensives, je ne connais pas un seul grand club dans le monde où ta menace offensive principale, c'est ton latéral droit. Donc je pense qu'au bout d'un moment...
Après, il est en train de surperformer, il ne faut pas l'oublier. Enfin, surperformer, non, il a son niveau. Je veux dire, il est trop fort.
Mais les autres ne le sont pas, tu vois. Dans un club, on attend autre chose d'un club comme le Paris Saint-Germain, je pense. En tout cas, même si eux nous disent que leur but, c'est pas de gagner la Ligue des Champions cette année.
Ils peuvent le faire, les joueurs, tu vois. Est-ce que pour toi, les joueurs qu'il y a là, ils sont un standing que...
Ah, ils peuvent faire mieux que le PSV, etc. Là, oui, t'as un problème. Oui. Et au-delà
Après,
du fait...
Regarde les matchs, tu vois.
Ouais, mais je les regarde, les matchs. Et au-delà du fait que... D'accord, mais en fait, pour moi, ça manque de tranchant. Il y a vraiment un truc où les initiatives, tu les prends pas. Tu vas vraiment jouer contre nature. Et pour moi, c'est flagrant dans le jeu du PSG. Et ça s'est encore vu contre Monaco.
Merci Lucas. On va poursuivre avec la Ligue 1. Hein. Marseille qui ont déroulé sur le Havre avec un but de André Ayew et les larmes d'André Ayew sur le banc avec l'ovation qu'il a reçue au Vélodrome. Spectaculaire, un match vraiment complet de la part de Marseille avec notamment la pépite Nadir qui a été de retour de blessure, Bilal Nadir qui est de retour de blessure et qui a joué pour son premier match. Sa première titularisation et qui marque ce premier but. L'histoire est belle pour nos amis marseillais. Maxence était très heureux et voilà, il m'a sollicité pour que j'appuie vraiment sur cette victoire-là, mais je le fais. Lens qui ont perdu 1-0 à domicile face à Toulouse avec notamment un carton rouge sur... Pereira da Costa, avec Angers qui sont imposés face à Brest 2-0, Strasbourg qui sont imposés à domicile 3-1 face à Auxerre, Lyon qui sont imposés contre le cours du jeu face à Montpellier 1-0, Nice qui bat Rennes, bien évidemment un remake de la Supercoupe entre Monaco et le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui sont imposés à lui 2, 4-2. Qu'est-ce que tu peux dire sur tout ça, Ibrahima? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, je voulais revenir sur le match qui opposait Lyon à Montpellier. Sincèrement, j'ai été... Enfin, pour avoir vu le match, le résultat ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé durant ce match. J'ai été assez impressionné, notamment les 15 premières minutes de Montpellier, où je les ai trouvés hyper tranchants. Alors, ils se sont procurés pas mal d'occasions et ils ont réussi à mettre Lyon en difficulté pendant un bon nombre de minutes.
Avec un but notamment refusé de Ferry.
Oui, exactement, un but de Ferry refusé. Et oui, enfin, la victoire n'est pas totalement méritée pour l'Olympique Lyonnais, que j'ai trouvé c'était assez poussif quand même du côté Lyon. On sent qu'ils ont pris du temps à se mettre dans le match, tout simplement. Après, Montpellier, à un moment donné, aujourd'hui, ils ont 9 points. Il y a une situation, à un moment donné, de contre-attaque, où ils arrivent à 2 contre 1, ils ne sont pas capables de marquer. C'est Khalil le joueur, j'ai oublié son nom.
Khalil Fayad.
Oui, Khalil Fayad qui n'arrive pas à marquer à un moment donné.
Qui marque contre son camp, en plus.
Qui marque contre son camp juste après, donc c'est... C'est assez cauchemardesque pour lui, le pauvre. Si tu peux pas marquer des occasions comme ça, c'est la Ligue 2 qui t'attend. Et J'ai un peu l'impression que le coach Jean-Louis Gasset, il est un peu dépassé par les événements. Et la défaite en Coupe de France, déjà, m'avait plutôt choqué, le 4-0. Et là, je pense que Montpellier, ils font partie des premiers condamnés.
Mais là, ils sont revenus avec beaucoup d'envie. Moi, j'ai vu une équipe de Montpellier. Minutes, je ne me disais pas que c'est une équipe qui est dernier de Ligue 1, c'est avec sûr. 9 points. Et je me disais que la Ligue 1 aussi, ça va super vite. En 2-3 victoires, tu peux t'en sortir.
Bah, je suis d'accord.
Et là,
avec
franchement,
toi.
Quand tu tombes contre des concurrents directs, là, face au Angers.
Angers qui a fait un bon match.
Oui, Angers qui a fait un bon match.
Très bon match. Ils battent Brest.
Voilà, ça peut être contre Saint-Etienne, même Saint-Etienne qui sont imposés face à Brest. Mais, ouais. mais en tout cas, avec le jeu.
Prochain match contre Angers, justement.
Voilà, bah voilà. Et avec le jeu proposé, en tout cas, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Moi, en tout cas, j'ai vu une équipe de Montpellier qui ont dominé cette équipe lyonnaise, mais qui n'arrivait pas à terminer les occasions. C'était beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions créées, mais il manquait ce dernier geste. Du coup, Gasset a trouvé peut-être la petite formule pour 2025, je ne sais pas.
Et pour revenir sur Saint-Etienne, très beau but de Stassin aussi ce week-end. Franchement, le but du week-end, même, je pense. Très beau but.
Ouais, je confirme. Alexandre, toi ?
Ouais, beaucoup de choses à dire sur cette journée de Ligue 1. Franchement, la Ligue 1 cette année, moi, ça me plaît bien. Mais très rapidement, un mot sur Lyon. En fait, justement, c'est ce genre, même si c'est contre le cours, j'ai pas vu le match, hein, mais c'est contre le cours du jeu, etc. Moi, je trouve ça que c'est important ce genre de victoire pour Lyon parce que c'est exactement à cause de. Enfin, c'est comme ça qu'ils perdaient des points auparavant, en fait. Donc, moi, je suis content que voilà, ils puissent gagner, même si c'est cruel, je suis content qu'ils puissent gagner ce genre de match. Après, moi, le match du week-end, pour ma part, c'était Nice-Rennes. Je suis déçu des Rennais, en fait. Je suis déçu des Rennais parce que les Niçois, c'est pas comme si c'était flamboyant. En plus de ça, bon, je sais pas si on va en parler, mais ils font le coup Seko Fofana, etc. Machin. Mais quand t'appelles Sampaoli, déjà que tu sais que ça va pas s'inscrire sur la durée, le mec, tu peux penser qu'il va te produire un beau football, un football flamboyant, un football qui est fait pour Rennes. Et au final, tu laisses passer ta chance contre un Nice qui est pas terrible, hein, Nice, franchement. Et donc moi, je trouve ça dommage pour Rennes. Et puis Marseille aussi, très rapidement, c'est bien pour Marseille qu'ils puissent gagner ce genre de match, qu'ils puissent revenir. Là, ils sont deuxième, il me semble.
Ouais.
Donc voilà, après, c'est contre le Havre, toute proportion gardée. Je suis content pour Ayou. Mais voilà, c'est important de gagner une large victoire.
Oui, Brahima, tu
voulais... oui, c'était par rapport à Steve Mandanda, qui, on peut le dire, aussi, est fautif sur les trois buts,
bien
limite.
Bien sûr.
Il y a Brice Samba qui, normalement...
Il va arriver,
ouais. Non, Brice Samba qui a été bloqué. Maintenant, on parle de Paul Lopez.
Voilà,
Paul Lopez qui risque...
Non, j'avais vu Paul Lopez du côté de Lens.
Oui, du côté de Lens,
pardon. Mais le plus grand perdant dans cette histoire, c'est Armand Lafont, finalement. Excusez-moi, qui est déclassé parce qu'il y a Anthony Lopez qui vient de signer à Nantes. On
titulaire directement.
Titulaire dès ce week-end. Mais ça, c'est d'ailleurs, ça s'est vu, hein, que c'est pas la même chose. Bon, si, quand même. Et puis,
personne qui t'a contesté autour de la table.
Je te jure, j'ai la tête.
Non, du tout.
Ouais, non, c'est Alban Lafont, moi, dans cette histoire qui fait, ça fait plutôt de la peine parce que logiquement, ça se disait qu'il devait aller du côté de Lens, du coup, pour remplacer Brice Samba. Et finalement, apparemment, du côté de Lens, ils sont pas satisfait de son niveau de jeu et c'est Paul Lopez qui devrait venir donc se retrouver relégué au niveau
mais ils
de...
bloqueront quand même Brice Samba apparemment.
Oui, apparemment il y a des gros problèmes déjà... avec la direction.
Oui, oui. Rennes sont déjà sur un autre gardien, je sais plus,
parce que Will Steele avait dit que c'était Hervé Kofi qui avait joué et que Brice Samba limite c'était fini, il avait dit ça en conférence de presse avant le match.
Oui, qu'un joueur qui voulait partir
Et qui pouvait pas le retenir, voilà. Ce qui est logique. Ouais. Et là vous me surprenez là en me disant que finalement c'est pas si sûr,
mais ça va très vite en vrai,
c'est pour augmenter l'offre, c'est sûrement.
Ouais, sûrement.
Un jeu de dupe.
Mais assez surprenant d'ailleurs. Sûrement,
mais en fait renforcer aussi un concurrent direct. Tu vois,
en plus,
voilà, c'est en plein milieu de la saison, c'est mais pas forcément.
Ils ont besoin d'argent, Lens. Ils ont besoin d'argent.
En plus, ils ont de l'argent aussi.
Oui, mais.
Kusanov qui risque de partir aussi. Ouais, ils veulent le plus gros pour Kusanov. Ouais.
Il y avait Arnaud Tenas aussi, apparemment, qui pouvait être mentionné dans les discussions. Moi, je trouve que faudrait vraiment investir sur Arnaud Tenas.
Ouais. Et l'arrivée de Seko Fofana, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Non, mais.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant qu'international ivoirien?
Non, moi, je suis content déjà de le revoir, de pouvoir le voir jouer, parce qu'honnêtement, je regardais pas le championnat saoudien, mais de ce qui se dit, ses performances n'étaient pas flamboyantes.
Il s'est fait prêter.
De ce côté-ci. Il se fait prêter où? À Rennes ou...
Non, en fait, il était à Nasser et il s'est fait prêter à un autre club.
C'est ça. Et il a une carrière assez énigmatique, Seko Fofana. Franchement, je sais pas quoi en penser. J'attends de voir ce que ça va donner.
En fin de carrière, un peu. Enfin, en fin de carrière, il a 32 ans.
Il a 29 ans.
Le gars, il est en pic de sa forme.
Je comprends absolument rien.
Il a fait un choix.
Il a rempli les caisses.
Seko Fofana, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, et en fait, aussi, ce qui se passe, c'est que Seko Fofana, il aime être au centre du projet. Il ne veut pas être un joueur parmi d'autres, aller sur le banc, etc. C'est pour ça que même quand il fait sa super saison à l'Udinese et que l'Inter le veut, il préfère aller à Lens. Et en fait, c'est son truc. Bon, là, il a quand même eu ce... C'est fou, hein, mais c'était vraiment le cas. Pour le coup, c'était avéré que l'Inter le voulait. Il était dans l'équipe type de Serie A, je crois. Il met un but de fou contre la Juve à la dernière journée. Vraiment, c'est en train de devenir une star à ce moment-là. Il a 25 ans. Et en fait, il préfère aller à Lens, le gars. Donc, c'était incompréhensible pour beaucoup, mais c'est ce qu'il a fait.
Et pourquoi il ne veut pas rester, tu vois,
il reste
jouer la Ligue des Champions avec Lens.
Dommage. Et là, je pense qu'à un moment, il s'est fait avoir, voilà, l'argent, c'est de l'Arabie Saoudite. Mais pour moi, je pense pas qu'il soit opérationnel tout de suite. Mais je trouve que globalement, c'est une bonne recrue pour Rennes. Je pense que l'an prochain, c'est vraiment un excellent joueur. Seko Fofana, je pèse mes mots, c'est vraiment un excellent joueur. Et je pense qu'il fera beaucoup de bien à l'effectif rennais à partir de l'année prochaine, voire d'ici 2-3 mois. Mais moi, je trouve que globalement, il y a quand même une mauvaise ambiance là entre ces clubs-là qui sont dans le mercato, Rennes et Lens principalement. Là, ils ont perdu tous les deux ce week-end. Pour moi, c'est pas un hasard. C'est que vraiment, il n'y a pas de sérénité. Ils ont des joueurs qui sont bloqués. Ça se ressent sur l'effectif. Alors qu'on voit au contraire que Marseille, qui est très très serein, avec
qui arrive à recruter aussi.
À recruter, ouais,
Luis Felipe.
Exactement, qui avait fait des très bonnes choses à Séville et à la Lazio de Rome, qui est international italien. Et en fait, Marseille, on voit quand même que De Zerbi, il commence à imprimer sa patte, parce que là, tout l'effectif est impliqué. On voit que Wai, qui est sur le banc, il marque. Ulysses Garcia, à qui on faisait pas confiance en début de saison, il marque. Murillo, qui était pas non plus le joueur attendu, il fait des très bonnes performances. Mopé, il arrive à rester là. Tu le disais, le jeune Nadir, qui vient après qu'il s'est fait, je crois, les croisés, parce qu'il avait joué en Europa League l'an dernier, des très bons matchs. Et là, il revient à peine et il marque. Et on voit que techniquement, il est au-dessus, le petit. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un truc avec De Zerbi. J'ai envie vraiment d'en parler. C'est au-delà de la victoire contre le Havre, on voit que même si c'est des joueurs qui ne sont pas titulaires, il arrive à garder tout le monde impliqué. Et je pense que ça va. Ouais, je pense qu'il y aura une bonne fin de saison pour Marseille aussi à prévoir.
Comme il le dit, il n'est pas venu à Marseille pour rester deuxième. Et en plus de ça, il dit que là, il lui faut juste quelques joueurs pour complémenter son équipe type, vraiment, pour pouvoir que ça soit assez homogène avec des joueurs d'expérience, notamment avec Luis Felipe. Mais il est très confiant avec son groupe. Et notamment, on peut revenir sur Seko Fofana et les supporters rennais qui ne sont pas contents, qui ont sorti une banderole actionnaire d'un autre club, et tu joues pour un autre club. Le nouveau football, le football moderne, me donne la gerbe.
Il a démissionné
du conseil, mais il a toujours ses actions actionnaire dès qu'il est parti et qu'il a empoché le chèque. D'accord, il a été actionnaire aux côtés de Lens. C'est ce qui a passé un peu la crème sur il a bien passé la crème, parce qu'au moment où il part, pour son départ, directement, il devient actionnaire aussi du club. D'accord. Ce qui fait qu'il sera attaché tant qu'il ne vendra pas ses parts. Et je pense pas que c'est pour les
vendre là.
Il y a un conflit d'intérêts. Voilà. Du coup, demain, tu joues contre Lens, c'est comment ? Tu vois, tu marques pas, totalement. Tu trucs, c'est comment ? Tu vois, comment ça se passe ? Du coup, les supporters rennais sont pas très contents. Oui, Brahima ?
C'est un peu l'ambiance du championnat du championnat français en ce moment. Je mets ça au même niveau que le Paris Saint-Germain, qui est possédé aujourd'hui par des Qataris qui se retrouvent à jouer la finale du trophée des champions en pleine saison au Qatar. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'état actuel du football français, honnêtement, que ce soit à tous les niveaux. Et pour revenir à Seko Fofana, c'est sûr qu'il y a conflit d'intérêts. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi, il y a pénalty à la 36e journée, place qualificative en Europa League, Lens-Rennes, il tire, il marque, on ne sait pas.
Donc, il tirera pas.
Je sais pas, on tire, ça revient sur lui, il rate.
C'est très compliqué. En tout cas, on va suivre ce dossier de très près. Léo, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette journée de Ligue 1 et de tous ces résultats?
Ça va peut-être paraître un petit peu cocasse, mais la performance qui m'a le plus impressionné ce week-end, c'est celle de Saint-Etienne, très clairement. J'ai vu une équipe. C'est rare qu'on voit un entraîneur qui arrive, surtout dans un club comme Saint-Etienne, avec le poids de son histoire, avec le contexte actuel, et qui imprime sa patte aussi rapidement. J'ai vu des joueurs qui couraient les uns pour les autres, qui mettaient de l'intensité dans à peu près tout ce qu'ils faisaient, des beaux buts. Une première mi-temps qui a été bonne, malgré le fait qu'ils aient loupé beaucoup d'occasions. Le résultat est amplement mérité d'ailleurs. Je pense que c'est important qu'une équipe comme Saint-Etienne, qu'un club en tout cas comme Saint-Etienne, se retrouve en Ligue 1, parce qu'on parle quand même d'un historique du championnat de France. Et mon flop, c'est personnellement l'Olympique Lyonnais, parce que le match, c'était un des pires matchs de la saison, si ce n'est le pire avec Toulouse, il me semble, qui était ridicule. Mais voilà, ces matchs-là, il faut savoir les gagner. On dit souvent qu'un match, il faut savoir ne pas le perdre. Si tu peux le gagner dans ces circonstances-là, c'est bien aussi. Montpellier, c'est franchement pas mérité pour eux. Et tout à l'heure, on parlait de leur état de forme, du manque de réussite et tout. Et moi, ils me font vachement penser à l'OL de la première partie de saison de l'année dernière. Tu produis du jeu, tu te procures des occasions, mais tu n'as pas de réussite, tu as des poteaux, tu as des joueurs qui ratent, tu as beaucoup de choses comme ça. Et le problème, c'est la différence entre cet effectif de Montpellier et celui de l'OL l'année dernière réside dans la qualité intrinsèque des joueurs, je pense. Concernant l'OM, hier, c'était un match franchement abouti. On commence vraiment à voir ce que De Zerbi veut mettre. Moi, j'ai en tête le second but qui a été inscrit par l'OM avec 6 joueurs dans la surface. Donc, ça montre une véritable envie de se projeter. Tu vois aussi des attaques qui viennent de la gauche, de la droite, du centre. Le danger, il arrive d'un petit peu partout. Ça fait exploser des blocs. C'est très bien. J'ai bien aimé la réaction du public au but d'André Ayew et à sa sortie. Bien que si ça avait été le but du 1-0 pour le Havre ou du 2-1, on n'aurait pas eu la même chose, mais c'est normal.
Il s'est fait siffler au début.
Il s'est fait siffler les premières minutes. Parce qu'il y en a, je lisais un petit peu sur Twitter, qui lui reprochent d'être parti libre à Swansea après avoir clamé son amour pour l'OM. Bon, on en pense ce qu'on veut.
Il y aura toujours.
Effectivement. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour. Je pense que Rennes a été un peu mal payé de sa défaite vendredi soir. C'était un match, je vais pas dire que c'était un bon match de Rennes, mais c'était un match satisfaisant. Je pense que le point du nul aurait peut-être été plus mérité. Et puis Brest, Brest qui est un peu sur courant alternatif cette saison, qui est très bon en Ligue des Champions, mais qui a plus de mal en championnat, qui alterne entre de bons résultats et de plus mauvais. Donc voilà, c'est un championnat intéressant avec un groupe de têtes hors PSG qui va se livrer une bataille jusqu'à la fin, on l'espère.
Il y a Lille qui a perdu des points malheureusement contre Nantes.
Ouais. Et puis c'est un bon championnat qui fait plaisir.
Merci Léo. On va se faire une petite pause avant d'enchaîner bien évidemment avec la Liga. Il y a beaucoup de choses à dire du côté de la Liga et des résultats notamment avec l'Atlético de Madrid qui sont nouveaux leaders de ce championnat. On y revient tout de suite.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
Nous sommes de retour à 21h23 dans les locaux de Montparis FM pour l'émission Au bout du foot. Nous allons enchaîner avec la Liga. La Liga, bien évidemment, qui était dominée, du moins il y a un mois encore, par le FC Barcelone qui était leader et qui ont tout perdu, qui se retrouvent troisième de ce championnat, avec notamment des défaites dernièrement, avec une équipe face à une équipe comme l'Atlético de Madrid, qui ont su jouer le coup et qui viennent jouer les troubles faits. L'Atlético de Madrid, qui sont deuxième actuellement, avec un match en moins sur le Real Madrid, qui sont leaders pour l'instant. Beaucoup de choses à dire. Barcelone qui perdent énormément sur ces dernières rencontres, on a pu le voir, qui enchaînent les défaites face à domicile en plus, face à l'Atlético de Madrid 2-1, Sorloth qui vient les punir littéralement à la dernière seconde, il les crucifie vraiment, et avec ce piège du hors-jeu qui ont essayé à la fin, le Cholismo a réussi à détourner. Les Ganes qui sont imposés aussi face à FC Barcelone. Juste avant, c'était un match nul face au Betis. Bon, rien ne va plus du côté de Barcelone. Avec un Lamine Yamal qui était blessé, mais qui va être de retour. pour les prochaines échéances. Kylian Mbappé qui a mis son maillot dans son short et qui est reparti comme en 46, qui commence à mettre des buts et bien évidemment qui permet au Real d'être leader aujourd'hui avec notamment des somptueux buts dernièrement qui se sont imposés très largement face au FC Séville avec un festival de buts 4 buts à 2 et là qui se sont imposés dans la douleur et dans la souffrance mais qui sont quand même imposés à Valence avec notamment un carton rouge qui a fait polémique et qui continue à faire polémique et toujours au cœur du débat monsieur Vinicius Junior, l'Atlético de Madrid avec un Antoine Griezmann qui joue super bien, Sorloth qui est en super sub, en fait l'alchimie est magnifique du côté de l'Atlético de Madrid. Hein. Diego Simeone arrive à les faire jouer. Alvarez, Griezmann, Sorloth, Correa aussi, qui rentre, qui est beaucoup décisif. Alexandre, je te sens abattu autour de la table. On va commencer avec toi directement pour essayer de te remonter le moral juste après. Vas-y, dis-nous. Dis-nous qu'est-ce que tu en as pensé de ces derniers matchs du FC Barcelone et de la Liga.
Déjà la Liga, moi j'aime bien ce championnat cette année, je le trouve aussi plutôt pas mal comparé à l'année dernière, parce que l'année dernière il était vraiment macabre le championnat, là ça va un petit peu mieux. Sinon, que dire de cette faute professionnelle du Barça, sur le terrain comme dans les bureaux. J'ai pas les mots de prendre, je crois, 5 points sur 21 possibles en un mois et demi, ça me dégoûte en fait. Et franchement, vous n'aurez pas dû voir mon état, hein, mais le match contre l'Atlético de Madrid, j'ai cru que j'allais casser quelque chose. Vous avez regardé, je ne sais pas si vous avez regardé le match.
C'était le match du c'était le remake.
Mais moi, parce que en plus, je connais quelqu'un là, il est supporter de l'Atlético de Madrid et il est content. Je comprends pas en fait comment tu peux être content quand ton équipe elle propose une performance aussi éclatée que ça en fait.
Non, excuse-moi, mais c'est le jeu de l'Atlético. Mais c'est un jeu qui marche.
Mais c'est ce que
Diego Simeone propose plus dans le football depuis 13 ans, 14 ans.
Dans le football, c'est plus simple de défendre que d'attaquer, que de proposer quelque chose. Là, eux, ils proposent rien.
C'est difficile.
Il
n'y
a rien.
Défendre,
le seul truc, c'est quoi, le seul truc où je leur en tiens. Oui, bien sûr que c'est difficile de bien défendre sur ce niveau-là. Mais c'est plus dur de proposer du jeu, de créer des choses, des schémas de passe, des redoublements de passe, des enchaînements, du jeu de position, des
contre-attaques très rapides qui savent faire.
Le seul truc que je peux vraiment leur féliciter, c'est Nahuel Molina qui déborde et qui trompe le piège du hors-jeu et qui va servir Sorloth, et comme par hasard, mais ça me dégoûte en fait, parce que là forcément Simeone, quand il voit Sorloth marqué, voilà, tout le monde là, le Cholismo à Simeone, le meilleur entraîneur du monde et
non,
machin, le coup incroyable Sorloth truc,
en Espagne il s'enflamme très vite, hein.
mais c'est le coup qu'il réalise.
Faut quand même dire, avec les enchaînements de matchs, l'Atlético, parce que ça commençait pas bien l'Atlético, Diego Simeone a été remis tout de suite en doute dès le début de saison, comme les dernières saisons. Est-ce que Diego Simeone va finir la saison? Est-ce que nanana? Lui, il reste concentré, il reste focus, et ça gagne des matchs. Et là, ça arrive, et ça joue au mental. Et comme il le dit,
ça joue jusqu'au trip. Et comme par hasard, t'as Oblak qui sort le
mal. Excuse-moi, mais le football se joue pas que sur de la chance.
Mais t'as Oblak qui sort le match de sa vie tout le temps contre nous à chaque fois. Le gars, il sort le. Non, il était nul.
Il est moins bon, mais ça reste Yann Oblak.
Il était mauvais.
Il n'y a pas que le Barça qui est bon.
La première mi-temps qu'on fait, j'avais les larmes aux yeux. C'était incroyable. Pedri, il était trop fort. Et j'ai dit, parce que je regardais, il y avait ma mère là. J'ai dit à maman, je sais que si on ne marque pas le deuxième but, c'est terminé. Comme par hasard, action. Il marque le 1 partout, et là tu savais que c'était terminé.
Et sur la dernière action, surtout,
il restait 5 secondes.
On sent beaucoup d'émotion dans ta voix.
Non, mais parce qu'en fait, Alexandre, mais vous le savez, parce que vous avez vécu la même chose contre Paris, vous savez très bien, avec Paris.
Vas-y. Non, moi en tout cas, voilà, pas mal de gens qui sont morts de rire autour de la table.
Désolé, mais je termine juste parce que là, le Real Madrid, ils font le même coup contre, enfin quasiment, parce que c'est un peu différent, mais contre Valence, très surprenant Valence, ils entament ultra bien l'année 2025, parce que en vrai de vrai, Valence c'est vraiment un club historique, et les voir descendre, ce serait vraiment vraiment un gros coup dur pour le football espagnol, encore plus ce qui s'est passé avec voilà, les inondations, etc. Et ils font vraiment un bon match, je ne sais pas si vous avez vu le match encore, ils font vraiment un bon match contre le Real Madrid. Et moi, c'est ça que j'en veux à ce club que je déteste. C'est
mais
que...
le Real Madrid font un bon match aussi. Mbappé, but refusé pour 2-3 cm, le penalty loupé de Bellingham. Non, mais il y a beaucoup de faits de jeu. Tu peux pas me dire en deuxième mi-temps, il y a eu qu'une seule équipe qui jouait.
C'est là, on peut pas l'enlever. C'est le Real Madrid. Ils ont une résilience de malade mental. Et aussi, ils ont
Thibaut Courtois.
Ils ont Thibaut Courtois et ils ont des joueurs de football. Brahim Diaz, moi, c'est un mec que je trouve incroyable.
Trop fort.
Il a encore marqué d'ailleurs contre en couple à l'instant quand ils ont gagné 5-0.
Non, il a pas marqué.
Il a pas marqué.
Arda Güler, Camavinga.
Mais enfin, c'est vraiment un bon joueur. En fait, le mec quand il rentre, tu sens que c'est un joueur différentiel. Arda Güler, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est des
et surtout Modric. Modric qui rentre. Et c'est Modric qui rentre. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais
dit. Je vous l'avais dit ici. Modric, c'est un joueur, c'est un profil qui manque en fait au Real Madrid. Et la passe de Bellingham sur le but de Modric, elle est incroyable. Incroyable, voilà, c'est tout ce que j'avais
et
à dire.
Et l'extérieur, les trois doigts. Comme Omar Dalfonseca, il le dit si bien, les trois doigts qui, voilà, il parle au ballon, vrai, il lui fait un bisou au ballon et il lui dit vas-y, va au fond, vas-y, je t'en prie. Non, mais Omar Dalfonseca, qu'on salue aussi avec, franchement, très très fort. Et moi, j'ai suivi le match du FC Barcelone et quand il est en train de commenter le match avec l'action de l'Atlético de Madrid qui part en contre-attaque,
lui, Omar c'est un madrilène, Omar Dalfonseca.
Non,
si,
non.
Si, 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 c'est
on sait pas parce qu'il est très fan aussi de ouais il est oui, beaucoup non, Lionel Messi, donc du coup on sait pas vraiment, mais en tout cas on sait que la dernière journée, quand en tout cas moi je regardais ce match là et je savais,
on l'aime bien,
je savais que l'Atlético de Madrid allait punir,
mais c'était écrit,
le Barcelone, parce que le Barcelone loupait trop d'actions, et surtout ce qui les a tués sur la dernière action, c'est le jeu du hors-jeu. Le piège du hors-jeu, parce qu'on a vu que l'Atlético, ils l'ont compris, le piège du hors-jeu, il y a beaucoup de clubs qui l'ont compris aujourd'hui.
Un milieu de terrain qui est arrivé lancé, oui.
Exactement. Il y en a un, il fait une feinte pour que les autres, ils avancent, et là, tout de suite, il y en a un autre qui arrive en double, double lame. Et là,
après, ça a tellement marché que tu peux pas tout remettre en question.
Non, mais bien évidemment, mais ça marche sur des situations, mais sur d'autres situations, ça ne peut pas marcher comme là, cette situation-là. Il te reste 5 secondes, tu peux pas jouer le piège du hors-jeu. Tu t'es obligé de la jouer à fond. Ils sont deux, vous êtes 5, vous redescendez tous, et piège du hors-jeu.
Le comportement de Baldé qui voit Molina partir et qui le regarde, qui veut même pas courir, parce que Baldé, un jour, faudra parler de lui. Il le voit, il fait même pas l'effort.
Peut plus faire l'effort. Il est carbo. Ouais. Il est carbo à la fin. Ibrahima, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ces résultats en Liga?
Non, moi, ce match opposant le Real Madrid à l'Atlético, franchement, c'est...
Barcelone.
Le Barça plutôt à l'Atlético, ça m'a... Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a rappelé le match du PSG. Donc, connaissant l'Atlético, j'étais pas surpris. Mais la question que je me suis posée durant tout le match, c'est comment un joueur comme Griezmann peut prendre autant de plaisir à jouer dans cette équipe.
Bien sûr, parce que
c'est
incompréhensible.
C'est vraiment...
Il touche des ballons, il vit, hein, il marque.
Il aime bien.
Non, mais justement... il aime bien. Parce qu'il va toucher quelques ballons. Bah oui.
Tout repose sur lui. Moi, je comprends
sur le peu de fois où ils ont le ballon. Parce que même quand il lag, il perd énormément de ballons. Il fait pas des bons matchs.
70% de possession. Je comprends ce que tu veux dire.
C'est horrible à regarder, sincèrement. Je sais pas comment des gens font pour supporter cette équipe.
Non, excusez-moi.
C'est horrible. Là, il vient de gagner 1-0 contre une équipe de Détroit.
Non, mais excusez-moi. C'est
pas du foot. C'est pas du football.
Non, mais excusez-moi. On va se calmer autour de la table. Oui, c'est du football. Et moi, franchement, je repense à des matchs face à Séville, face à Valladolid, face au Sparta Prague où ils ont déroulé dernièrement. C'était des 6-0, 5-0, 4-3. Il y a eu du jeu. Moi, j'ai vu du jeu. En tout cas, dernièrement, j'ai vu du jeu.
T'as tout dit. Voilà. Séville, Valladolid, Sparta Prague.
Mais oui. Et...
Bah donc, c'est des équipes. Ils sont nuls. Enfin, désolé. Non,
non mais excuse-moi. Mais tu vois, par exemple, si tu dis Barcelone, Leganés et le Barça, ils n'arrivent pas à marquer un but et Leganés les battent, tu te dis quoi à ce moment-là?
Ce qu'il veut te dire, c'est que Barça produit à chaque match. Et là où il a raison, là où je
te produit, mais il faut finir.
C'est que... Merci, Lucas.
C'est comme le Paris Saint-Germain. Moi, je les vois pas. Moi, c'est le Paris Saint-Germain bis FC Barcelone.
Mais t'étais pas dégoûté au match contre l'Atlético de Madrid? Tu t'es pas dit que l'Atlético de Madrid...
Non, Paris a trop gâché.
Ils ont
Paris
produit de l'anti-foot, que c'est insupportable de jouer
non,
contre un bloc bas comme
pas.
Ça.
Non, absolument ah bon pas.
Tu t'es pas dit ça, t'étais pas dégoûté.
Non, non, non.
Tu vois que ton équipe...
Ah non, non, non. Moi, ce que j'aime... Oui, ce que moi, j'aime, c'est la punition. Et c'est ça... être un grand, mais c'est ça. Ils ont eu 30 000 occasions.
Non mais
ils ont eu 30 000 occasions. Ils ont pas réussi à les mettre au fond. Et c'est ça que tu vois toute la magie du football. C'est les émotions comme ça où tu te dis ça va rentrer. On va gagner. Et non, au final, on a perdu. On a même pas le match nul. C'est ce que moi je me dis et c'est ce qui est magique. Moi, ça me fait sourire, ça me fait rire. Comme ça, ils apprennent aussi. Le Paris Saint-Germain apprend aussi.
Avec pour terminer ça. Sur ce que je disais.
Excuse-moi, Ibrahim, on
t'a. Oui, y a pas de souci. Y a pas de souci.
On s'est emporté.
Y a pas de souci. Là où je respecte énormément Diego Simeone, c'est qu'il réussit à faire adhérer ce système-là à tous ces joueurs-là. Il y a quand même. C'est enfin, vrai. Je sais pas moi, Gallagher à Chelsea, ça joue un petit peu. Il y a des joueurs quand même comme
Pablo Barrios, Alvarez.
Correas, Alvarez. Barrios, c'est des mecs qui jouent, qui touchent le ball. Alvarez, sortir de City.
Marco Llorente aussi.
À l'Atlético, c'est catastrophique. Enfin, je... Honnêtement, j'ai jamais pris aucun plaisir à regarder cette équipe jouer, mais encore plus cette année. C'est horrible. Franchement, ils jouent à 16 derrière.
Il y avait des années où
ils
c'était
font
mieux,
des contre-attaques.
Ça n'a pas toujours été aussi.
Même Griezmann, je le trouve. L'année mauvais.
L'année en 2020, là où il rend pas
mauvais, il a touché 3 ballons.
Il est horrible. C'est. Non, c'est franchement compliqué. Au de l'Atlético du début avec Falcao, tout ça, ça pouvait passer. Mais là, j'arrive plus du tout. Là, franchement, Diego Simeone, il a tout mon respect, hein, parce que faire adhérer ça à des joueurs comme Griezmann, des gens qui ont du ballon quand même. Enfin, je sais pas.
En fait, il y a cette âme. Oui, mais il y a cette âme en fait. Dans tout le monde se donne à fond. Tout le monde court de droite à gauche. Excusez-moi, mais tout le monde joue comme un chien un peu sur le terrain et qui se donne et qui non, mouille le maillot Jiménez, pour la tactique.
Et Rodrigo de Paul, il y
arrive.
Lui me sort de la tête.
Mais c'est des beaux joueurs. Mais tu vois, là où je vous donne raison, c'est qu'en fait, les vrais joueurs créatifs. Diego Simeone, il a pas su les accompagner. Que ce soit Thomas Lemar, João Félix ou les autres qui sont vraiment des bons joueurs de ballon.
Thomas Lemar, là, il est à la cave là d'ailleurs.
Il est à la cave parce qu'il a fait jouer. Il a fait jouer Piston alors que c'est un vrai joueur créatif. Lemar, il a des qualités qui sont évidentes, mais c'est des joueurs qu'il a perdu. Et en fait, parce qu'il a un système, t'y adhères ou t'y adhères pas. Faut courir beaucoup, faut se dépenser comme Eddie Elhadj. Tu joues comme un chien. Et en fait, ça, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. C'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir pour les yeux. Par contre, c'est très très efficace. Et je comprends qu'on est qui a un certain plaisir en fait, de te voir ton équipe qui va rompre et qui ne rompt pas et qui finit par gagner des matchs. Il y a une espèce de jouissance là-dedans à renverser les situations. Et je comprends qu'il y a des gens à qui ça plaise. L'Atlético, c'est leur style, en fait, c'est leur identité maintenant. Depuis plus de 10 ans,
j'ai hâte de voir l'après Simeone, hein, franchement.
Peut-être qu'ils reviendront à un football qui sera moins défensif.
Il faudra changer l'effectif alors.
Ouais, et puis il embarque son fils dedans. Enfin, c'est du n'importe quoi.
Il embarque son fils dedans.
Ah, qui fait des très bonnes performances. Non, mais excuse-moi. Mais
je remets pas du tout il est pas mauvais. Il y a Giovanni aussi. Giovanni
Simeone
Giovanni, il est pas mauvais. C'est un bon attaquant.
C'est ça, un attaquant
du milieu de tableau de Serie A.
Giovanni, ouais, c'est bien.
Mais embarquer son fils dans ce type de jeu-là, c'est horrible.
Et juste, donc du coup, pour la suite, je comprends du coup ta frustration pour le Barça et je comprends aussi la frustration de tous les adversaires qui jouent contre le Real, en fait. Parce que le Real, il y a un côté comme ça aussi. C'est moins pauvre dans le jeu et ils ont des individualités qui sont autrement plus talentueuses. Mais ça reste quand même des fois... Enfin, Valence, la première mi-temps notamment.
Bien sûr.
Ce qu'ils leur mettent, si t'as pas un Courtois exceptionnel, tu peux avoir 3-0 à la demi-heure de jeu, en fait. Et c'est pas le premier match dont on parle du Real où ça se passe comme ça, et ils finissent par le remporter à la fin. Alors en plus, l'effet de jeu contraire, l'expulsion de Vinicius, qui est par ailleurs pour moi totalement justifiée, mais tu te dis, ils sont à 10 contre 11, et ben voilà, Modric, immortel, dernière seconde, encore un but, et voilà,
Bellingham,
ça fait...
Bellingham, qui se rattrape du penalty
loupé. Ouais.
Fulky aussi, en belle passe décisive,
exactement.
Qui fait un bon match aussi, hein.
Qui fait un bon match.
Qui rentre dans la tête des gens, c'est fou.
Non, mais il fait la passe au défenseur. Le défenseur a la balle, mais en fait...
Non, mais la
le
passe, elle est bourbier.
Elle est bourbier, mais le contrôle, le contrôle qu'il fait, il est déjà... moyen, très moyen, mais c'est surtout la remise vers le gardien qui sait qu'il peut pas parce qu'il sait qu'il est en bout de truc. Du coup, il lance Bellingham. Alors qu'à ce moment-là, même s'il garde le ballon dans les pieds, je pense que ça peut se refermer.
Non, mais dans un match,
il est fatigué, Fulky à la fin.
Il a passé son temps à casser, c'est normal.
Dans un autre style, ça me.
À faire des allers-retours aussi.
Oui, et à casser aussi. Non, mais attendez, excusez-moi, mais vous avez vu l'équipe de Valence, c'est une boucherie. Il faisait que des fautes. Non, mais faut le préciser, excusez-moi, le nombre de fautes. Non mais excusez-moi, mais le nombre de matchs dans le jeu.
Si on peut parler de Valence une seconde sérieusement, c'était un des grands clubs, tu le disais, espagnol, Alexandre historique.
Ça reste l'un
depuis l'époque David Villa, Juan Mata, David Silva, il n'y a plus rien. Il y a eu un peu une remontée
pas
à l'époque.
Un petit peu, franchement.
Justement, à l'époque.
2015-2016.
Exactement, avec Marcelino aux commandes. Voilà. Mais sauf que Peter Lim a décidé de tout liquider. Et en fait, tu vois à l'exemple d'un dirigeant. En fait, avec Peter Lim, comment tu peux tuer un club en fait en tuant une dynamique, en disant que c'est ta vision alors que tu ne connais pas le foot. Franchement, pour moi, Valence, c'est un cas d'école d'un dirigeant qui est tout puissant, qui ne connaît pas le foot et qui vient et qui détruit un club. Et là, on en est là à Valence et c'est vraiment triste parce que moi, c'est un club que j'aime beaucoup en Espagne, un club qui m'a fait rêver. Et vraiment, là, on voit qu'il n'y a plus rien. L'effectif, il est pauvre. Et ils vont vraiment galérer pour s'en sortir cette année.
Ouais. Merci Lucas. On va enchaîner, Léo, tu vas nous donner ton avis sur tout ça. Le Real Madrid aussi, on veut quand même parler un peu de Kylian Mbappé qui retrouve des couleurs. Hein. Kylian Mbappé qui est en forme, qui met des beaux buts et qui, même dans le jeu, a progressé. En tout cas, si tu as pu suivre les matchs dernièrement, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça?
Oui, Mbappé, il marque pas mal en ce moment, mais alors dans le jeu, je suis pas forcément d'accord. Je le trouve toujours assez peu intéressant, mais comme il l'était déjà sur sa dernière année au PSG, d'ailleurs, je trouve, il y a souvent ces stats qui venaient un petit peu redorer son match, quoi. Mais non, mais c'est bien pour lui, et puis c'est bien pour l'équipe de France, parce qu'on va en avoir besoin, je pense, parce qu'il y a quelques petits problèmes offensifs récemment, et c'est pas pour dire que les autres attaquants de l'équipe de France actuelle sont un petit peu à la peine, mais c'est un peu tout comme. Donc, s'il peut revenir en forme, c'est intéressant. Après, tout ce qui a été dit, voilà, tout à l'heure, enfin, Lucas parlait de Peter Lim. On peut aussi prendre un exemple qui est un petit peu plus proche de chez nous avec Gérard Lopez, qui est exactement la même chose. voire même pire, j'ai envie de dire, puisqu'il n'en a pas coulé qu'un, pas deux, mais même trois clubs. Et envoyer Bordeaux en N2, c'est quand même une sacrée performance.
En N2, ils sont proches de la liquidation judiciaire.
Ils ont perdu ce week-end contre l'Ocminé. La Liga, c'est un championnat qui est intéressant cette saison. Effectivement, t'as trois têtes d'affiche, donc l'Atlético, le Barça et le Real. Ça va être difficile de dire aujourd'hui, c'est difficile voire impossible de dire qui finira champion.
Le Real finira champion.
Je saurais pas le dire. Je vais l'Atlético. Pas. Moi, je pensais la dernière émission, je disais que l'Atlético était plutôt pas mal. Après, il y a eu un long débat sur tout ce qui est tout le jeu de l'Atlético et tout ça. J'ai envie de dire que l'Atlético, c'est une équipe qui va réussir des coups, mais sur l'intégralité d'une compétition ou d'un championnat. Quand tu regardes son palmarès, malheureusement, depuis l'arrivée de Diego Simeone, il n'est pas si important que ça. Tu gagnes
après,
une
ils
Liga
ont fait
en
une saison à 100 points.
Tu gagnes deux Ligas. Avant l'année de Griezmann et celle
oui,
avec
c'est ça, oui, la saison à 100 points avant
Ligue.
Griezmann.
Exactement.
T'as le Barça à son paroxysme et le Real aussi qui est très très bon, c'est dur.
Mais tu les vois aussi. Tu les vois en
champion. Pour l'Atletico, c'est bien, je trouve.
Ouais, deux finales de LDC, je crois.
Ils font des finales, mais ils les gagnent pas, malheureusement.
Et Europa League.
Ouais.
Bah, avec le jeu pratiqué, c'est incroyable.
Griezmann qui manque un penalty sur la deuxième.
Ouais, ouais.
Tout à fait. Et ils étouffent l'OM sur la finale d'Europa League. Après le Barça, pour revenir un petit peu sur Hansi Flick, moi je pense qu'il ne doit pas se renier, qu'il doit continuer, mais plutôt que de se renier, justement ajuster. Il a le retour aujourd'hui de joueurs comme Araujo en défense. Alors je pense qu'il va devoir charbonner Araujo parce qu'il a d'autres qualités par contre que Inigo Martinez ou Kubarsi qui sont eux très bons à la relance. Lui, ça va être plus du dur sur l'homme, mais je pense que sa place de titulaire, elle n'est pas actée. On a des joueurs, Frenkie de Jong, un peu sur courant alternatif. Ce joueur, j'ai jamais trop su quoi en penser. C'est un bon joueur, c'est un joueur élégant, tout ce que vous voulez, mais c'est pas un joueur sur lequel tu peux t'appuyer pour construire un effectif,
après,
je pense.
Il a été beaucoup blessé.
Ouais, mais bah justement, à 26 ans, c'est un problème que tu sois tout le temps blessé quand tu joues dans un club comme le Barça, je pense.
Qui se plaignait d'ailleurs d'avoir gagné aussi. Que 4 titres depuis son ouais. arrivée. Hein.
Moi, il y a un joueur que je continuerai à défendre, c'est Lewandowski, hein, même si je vois toute
j'ai
la commune.
J'ai cru que t'allais me dire en dessous Fatih.
Même si je vois beaucoup de membres de la communauté barcelonaise essayer de se le payer, moi, je veux bien hein, qu'il ait des défauts, effectivement, mais un mec qui a 36 ans aujourd'hui et qui me claque 25 buts en 25 matchs dans un club, bon, je trouve que c'est qui a pire. On parlait d'équipe tout à l'heure déclassée. Je voudrais souligner celle du Séville FC. Quand tu vois le Séville FC d'il y a encore 2-3 ans et celui d'aujourd'hui, tu te demandes un petit peu où tout le monde est passé. Quoi. L'effectif aujourd'hui, il est ridicule. Avec tout le respect pour les fans. De Séville et les joueurs, mais c'est vrai que
ils sont pas très loin de la sixième place.
Non, mais quand tu
ils sont pile au milieu de tableau, ils sont à 8 points de la sixième place. C'est rattrapable encore. Hein. Tu peux
non,
être
mais moi,
sixième,
je parle...
septième et
ouais,
finir
ouais.
En compétition européenne, quoi.
Mais moi,
en sachant qu'ils viennent de se faire, éliminer en coupe face à Almeria 4-1 avec un Luis Suarez des grands soirs et qui a mis un triplé. Luis Suarez
oui, de Marseille,
de Marseille,
qui ne fait que planter planté d'ailleurs.
Oui, qui ne fait
Almeria.
Que planter Almeria, oui.
Et voilà. Et puis juste pour faire juste une petite virgule sur l'Espagne en général. Tout à l'heure, on parlait de la délocalisation du Trophée des Champions et son organisation en janvier, qui n'a absolument aucun sens. On peut voir qu'en Espagne et en Italie, c'est exactement la même chose. Ouais. Y a en ce moment même d'ailleurs l'Inter là qui est en train de battre l'AC Milan en Arabie Saoudite. Personne dans les stades pour une Super Coupe. Il y a la Super Coupe d'Espagne qui débute cette semaine, enfin qui d'ailleurs va se tenir cette semaine.
Il y a 2-2.
Ah, il y a 2-2, ils ont égalisé.
Il reste 6 minutes.
Ok. Il y a la Super Coupe d'Espagne qui se tient aussi cette semaine en Arabie Saoudite. Au bout d'un moment, il va falloir vraiment se rendre à l'évidence. Quand tu vois les stades à moitié pleins, il n'y a pas d'ambiance, ça prive les supporters, enfin, c'est ridicule, tout ça pour une question d'argent, encore une fois. Moi, je trouve ça dommage. Plus le en parlant simplement de calendrier, il n'y a aucun intérêt à faire une super coupe au mois de janvier.
Bah Léo, malheureusement, ça va pas en s'arrangeant, puisque maintenant, tu sais, ils veulent délocaliser des matchs.
Ah oui, j'ai lu
au Mexique.
Mais tout ça, c'est pour l'argent. Hein.
Ouais, mais le CEO de la Serie A là, qui a parlé hier et qui a dit qu'il entendait délocaliser un match de Serie A par saison, mais pas un derby. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu donnes plus... Alors, dans les faits, effectivement, mais ça veut dire que tu donnes plus d'importance à un derby qu'à un match, je dis n'importe quoi, comme Udinese.
Surtout qu'il n'y aura personne dans le stade si ce n'est pas un derby. En fait.
Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir connaître l'avis des supporters, des petites équipes qui vont être envoyées là-bas. Donc, voilà, je trouve que c'est assez décevant, encore une fois, et il faut le souligner.
Merci Léo. On va revenir rapidement sur les résultats. Hein. Le Real Madrid, premier, seul leader pour l'instant, avec 43 points. L'Atlético de Madrid, deuxième, avec 41 points. Et le Barcelone, avec 38 points, troisième, hein, qui sont à 5 points du Real. L'Atlético Bilbao, qui sont à 2 points du FC Barcelone, quatrième. Villarreal, cinquième. Et Mallorca, sixième. Et dans la zone de relégation, Valladolid, avec 12 points. Valence, avec 12 points. Espanyol Barcelone avec 15 points et Retafe qui est hors zone qui est à 16 points. Du coup, tous jouent en 4 points. Hein, vraiment, on ne peut pas vraiment acter d'équipe qui va descendre dès maintenant. C'est encore trop tôt. Et bien évidemment, nous allons faire la Bundesliga qui n'a toujours pas repris. Hein, nous allons passer en Italie très rapidement avec les derniers résultats de ce qui se passe, notamment là la Supercoupe qui joue entre l'Inter et l'AC Milan. Bien évidemment, il y a 2-2 et c'est un match, je pense, assez passionnant, en tout cas en termes de buts pour l'instant. Le Napoli qui sont premiers avec 44 points, l'Atalanta avec un match en moins avec 41 points, l'Inter qui sont troisième avec deux matchs en moins avec 40 points et bien évidemment la Lazio quatrième et la Juventus cinquième. La Fiorentina aussi avec une belle équipe avec un Moise Kean qui reprend des couleurs hein, depuis le début de saison, faut le souligner, avec 9 buts en 11 matchs. C'est une très belle performance et voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur le championnat italien, si vous avez pu le suivre dernièrement, Alexandre ?
Ouais, déjà, Thiago Motta, il faut qu'il fasse encore quelques petits ajustements et je pense que dans les mois ou années à venir, la Juventus retrouvera sa superbe d'antan, comme on dit. Et sinon, sur les autres, moi, c'était surtout sur le match entre la Juventus et l'Atalanta, justement. C'était l'Inter et l'Atalanta.
En Supercoupe,
ouais. L'Inter et l'Atalanta. Au final, l'Atalanta, Gasperini, il a envoyé un message fort, parce que j'ai regardé un petit peu le match. Pas tout le match, mais une partie. Et les titulaires étaient remplaçants à ce moment-là. Donc le message est clairement fort. C'est d'envoyer, de tout mettre sur le Scudetto, parce qu'il sait lui-même que c'est cette année ou jamais. Et franchement, l'Italie, on en parle.
Mais là, il y a tout le monde dans le coup. Hein. Là, franchement, ouais, c'est une belle opposition. Hein. Là, ça peut être Naples, Atalanta, Inter. Ouais.
Malheureusement, c'est un peu moins visible, on va dire, en France en ce moment. La Serie A, c'est un peu passé aux oubliettes, on va dire. Mais je trouve que le championnat, il est vraiment intéressant. En plus, j'ai la chance d'aller à Naples la semaine prochaine. Ça va être pas mal. Mais franchement, ouais, je l'ai placé. Donc ça va être intéressant de voir que ça va être. Enfin, moi j'aimerais bien que ce soit l'Atalanta, soit Naples qui remporte le Scudetto. Mais pour moi, la meilleure équipe, c'est l'Inter d'Italie, c'est quand même l'Inter, parce qu'ils savent où ils veulent aller, ils ont un effectif vraiment qui est monstrueux. S'il y a encore quelques petits ajustements de Edin Zaghi. Et franchement, l'Inter, ça devrait jouer pour moi chaque année au moins des quarts de Ligue des Champions, les deux premières places, parce qu'ils ont vraiment un bon effectif. Voilà.
Merci Alexandre. Très rapidement, je vais prendre encore quelques... Oui, Lucas, vas-y.
Je suis totalement d'accord avec Alexandre sur l'Inter. Pour moi-même, au-delà d'un... Je pense que Naples va s'essouffler, mais au-delà d'un run incroyable de l'Atalanta, pour moi, l'Inter, ils ne peuvent pas laisser ce championnat leur échapper. Déjà, ils ont déjà laissé échapper trop, parce que pour moi, depuis 3-4 ans, c'est vraiment l'équipe qui est au-dessus. Ils ont vraiment un effectif qui est profond et talentueux. Et je pense qu'ils y arriveront. Là, on voit que même si Lautaro, il n'a pas fait un bon début de saison, je pense qu'il va revenir. Marcus Thuram, qui est méconnaissable en équipe de France, on le dit bien assez ici. Franchement, à l'Inter, il fait de l'excellent travail. En fin d'année, il a encore marqué un but extraordinaire. Et voilà, moi, je suis resté quand même un peu sur ma faim. Tu parlais de Thiago Motta, Alexandre, il a quand même beaucoup de blessés en ce début de saison. Mais le jeu n'est pas forcément... satisfaisant. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs nuls et je pense qu'ils ont besoin d'un déclic. Là, on voit qu'ils ont quand même des jeunes ailiers là. Le Turc, j'ai oublié son nom, et.
Ildim.
Ildim, c'est ça. Ildim. Ouais, et le fils Cancelo qui sont très, très déséquilibrants, qui, je pense, dans quelques années, seront vraiment d'excellents joueurs. Mais voilà, Vlahovic, on a l'impression qu'entre les blessures et sa compatibilité avec ses coéquipiers, ça reste toujours difficile. Mais bon, ça va revenir. Bremer est blessé, il va revenir aussi en défense. Et je pense que aussi l'intégration de Coupe Miners qui est arrivée et Thuram, ça va commencer à bien, bien monter en puissance en deuxième partie de saison. Donc j'ai bon espoir que ça aille mieux parce que j'aime beaucoup Thiago Motta, autant le joueur que le coach. Et voilà, je pense que la Juve, il faudra attendre. Mais cette année, pour moi, c'est l'Inter qui doit le prendre, le championnat.
Merci Lucas. On va rapidement revenir sur les déclarations de Mo Salah, hein, très rapidement. Mo Salah qui a fait une interview avec Canal+, je ne sais pas s'il y en a qui ont pu la voir. Et Mo Salah qui évoque notamment son futur et pour l'instant qui ne s'est pas vu proposer de contrat par Liverpool. Est-ce que vous comprenez ce choix du club de ne pas lui proposer de contrat en sachant que tout simplement c'est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur en termes de performance au monde aujourd'hui avec les performances qu'il a dernièrement? Qu'est-ce que tu en penses, Ibrahima?
Au vu du salaire qu'il a et de l'âge qu'il a, je me mets à la place d'un dirigeant de Liverpool. C'est vrai qu'on peut être hésitant, mais en même temps, quand on voit la saison qu'il est en train de faire et quand on voit qui y a sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui pour remplacer Mohamed Salah. Surtout que tu as Darwin Núñez qui est encore hésitant. Donc, je suis assez partagé. Je ne sais pas trop s'ils doivent lui proposer parce qu'il me semble qu'il veut prolonger de 2 ou 3 ans.
Lui, il veut 3 ans. Et eux, ils veulent 1 plus 1.
Ouais, eux, ils veulent 1 plus 1. Et il a 24-25 millions par an, c'est ça, il me semble. Ouais. Donc, c'est assez lourd pour un joueur de 33 ans, surtout qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure ou quoi que ce soit. Donc, mais si j'étais dirigeant à Liverpool, je pense que... Ouais, peut-être 2 ans max, mais...
2 plus 1 en option, en vue de ses performances, je pense que c'est...
Une en option, Enfin, quoi que...
Avec le joueur, avec les performances qu'il est en train de faire actuellement...
Mais moi, c'est surtout par qui tu le remplaces, en fait, aujourd'hui, s'il n'est pas là. S'il y avait une option concrète, j'allais rien dire, mais il y a qui aujourd'hui pour remplacer Mohamed Salah?
Son.
Mais non, Son aussi, il est en bout de course. Il joue à gauche. En
plus, vu la saison qui sort.
Ah, Léo, peut-être.
C'est pas un joueur qui met des buts. Mo Salah, il met des buts. C'est comme remplacer Lewandowski par Sadio Mané au Bayern. C'est la même chose.
Rashford, il finira.
Non.
Jamais. Non, je rigole jamais.
Mais voilà, en tout cas, voilà, quelqu'un d'autre veut s'exprimer. Lucas, très rapidement après. Ou Léo, vas-y Léo, après Lucas.
Moi déjà, je suis assez interloqué par le fait qu'on parle encore de cette histoire de prolongation. Pour moi, il n'y a pas de question. C'est le meilleur joueur de Première Ligue. Certainement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. C'est un joueur qui est là depuis 2017, qui a minimum marqué 18 buts par saison en Première Ligue. On parle de la Première Ligue, hein, on ne parle pas de Ligue 1 ou d'un championnat mineur. C'est un joueur qui est éternellement sous-coté, hein, je l'ai déjà dit, je le répète. Il a égalé Thierry Henry en nombre de buts. Alors chacun, les nostalgiques nous diront que Thierry Henry c'était encore autre chose. Après, libre à chacun de le penser, mais en tout cas, la performance est là. Salah, c'est un joueur qui est exceptionnel. Moi, je suis d'avis que Liverpool... Bon, après, c'est pas moi qui mets la main à la poche, donc c'est toujours plus facile. Mais je suis les dirigeants de Liverpool. Je renouvelle son contrat. Je lui offre ses 3 ans. 2 plus 1, je pense que c'est une bonne idée. Mais si vraiment lui veut ces 3 ans, je lui offre quand même, à minima pour service rendu. Puis c'est un joueur, je pense, qui, même s'il décline demain, il aura toujours une importance en termes de leadership, et puis sera toujours important, même s'il est plus titulaire indiscutable sur la dernière année de son contrat, sur
la passation à celui, voilà, qui c'est ça.
Puis Brahima, il le disait, aujourd'hui tu vas chercher qui est meilleur que lui, ou au moins à son niveau, ou même un tout petit peu en dessous. Personne. Non, tous les voyants sont au vert pour la prolongation, et lui, il a envie de prolonger. Ça se voit dans ses déclarations, dans sa communication, les photos qu'il met sur Instagram, les trucs. Non, pour moi, tous les photos sont au vert, et Salah doit rester à Liverpool, et Liverpool doit garder Salah.
Merci Léo. Bien évidemment, Mo Salah qui aussi demande cette prolongation, et j'ai perdu le fil, mais tu vas me le donner, Lucas, vas-y, je t'en prie, Lucas.
Non, moi, j'avais pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Léo, parce que je pense aussi qu'ils doivent tout lui donner. En vrai, pour moi, Mohamed Salah, c'est le meilleur joueur de Première Ligue à l'heure actuelle. Un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et c'est une légende de Première Ligue, voire peut-être même un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Je ne sais pas si on se rend compte. Certes, il n'y a qu'un titre. Il y en aura peut-être un deuxième à la fin de l'année. Mais sur la régularité, les performances et l'adversité qu'il avait, comment il a ramené Liverpool au top, alors que Liverpool, ça faisait des années avant l'arrivée de Klopp que c'était plus ça du tout. Il a une passe pour moi à part et à Liverpool et dans le championnat anglais, ça là. Donc pour moi, clairement, il n'y a pas à hésiter. Même s'il veut ses 25 millions sur 3 ans, tu lui donnes. En plus, il a une hygiène de vie qui est quasi irréprochable, etc. Donc, c'est pas un... il va décliner, mais ce n'est pas un joueur qui va te pourrir le vestiaire, qui va donner le mauvais exemple, etc. Pour moi, il donne des contrats. Tous les clubs donnent des contrats beaucoup plus risqués que celui-là à Salah. Franchement, il y a pas à hésiter du tout.
Pour toi, il n'y a pas à hésiter. Bon, en tout cas, on verra ce qui sera choisi du côté de Liverpool pour Mohamed Salah, qui est actuellement libre, en tout cas qui peut discuter avec d'autres clubs. Alexander Arnold aussi, qui est
Du coup, ce n'est pas les mêmes implications.
Dans le même cas, oui, ça n'est pas les mêmes implications, bien évidemment. Mais Alexander Arnold, qui a aussi son importance dans cet effectif, hein, même si par moment, il peut nous donner le pire comme le meilleur. On l'entend un peu en pourparleur avec le Real Madrid, notamment, en tout cas, c'est dans les petits tuyaux. Très rapidement, je vais prendre une personne qui veut... Oui, Ibrahima, vas-y.
Non, je voulais juste parler des supporters de Liverpool qui le prennent très mal, ça, qu'Alexander Arnold soit en train de discuter avec le Real Madrid. Il paraît même que le Real Madrid voulait le faire dès cet hiver. Je pense pas que ça se fera, mais je pense que là, la pression des supporters jouera un grand rôle dans ce transfert qui se fera ou non, hein, on ne sait pas, mais... Après, maintenant, du côté du Real Madrid, ça peut être une très grosse affaire parce que Carvajal, il ne sera plus jamais comme avant, c'est sûr, au vu de son âge et de sa blessure. Ouais. Lucas Vázquez, ce n'est pas un défenseur, soyons honnêtes. Donc, du coup, le Real peut être gagnant dans cette affaire, mais les supporters, je ne pense pas que ça se fera parce que la pression des supporters sur Alexander Arnold, qui est quand même un enfant du club, est assez importante.
Bah, à la balle, il l'a
fait. Merci.
Hein.
Nous sommes quand même en direct, hein, et les matchs, on les suit notamment avec Nottingham Forest qui s'impose 2-0 et AC Milan qui viennent de faire le coup face à l'Inter, 3-2 dans les dernières secondes de ce match. Le match n'est pas encore fini, mais Tammy Abraham qui permet aussi de devenir 3-2 en deux matchs contre Sao peut remporter son premier trophée à l'AC Milan. Ça serait un très gros coup. On y reviendra la semaine prochaine. Bien évidemment, on va passer très très rapidement sur vos faits marquants de 2024. Vous allez nous dire le moment fort vraiment de l'année 2024 qui vous a marqué. Quelqu'un, Alexandre, vas-y, je t'en prie.
Ouais, beaucoup de faits marquants, mais la CAN définitivement, parce qu'en plus j'y étais, Côte d'Ivoire qui gagne et tout. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et ouais, c'est vraiment le fait marquant de l'année 2024 pour moi.
Merci.
Pareil, j'enchaîne parce que moi aussi j'étais à la CAN, j'étais à Abidjan pour la finale et la demi, j'ai beaucoup aimé, c'était complètement fou, les scénarios, etc. Mais j'irai un peu plus loin, le fait qu'encore ce soit un troisième de poule qui normalement n'a rien à faire là, qui gagne, et aussi la comparaison avec cette CAN magnifique et cet euro soporifique, c'est un peu cette comparaison et ce déséquilibre qui m'a marqué.
Merci Lucas. Léo ?
Moi c'est vrai que je vais être un peu plus chauvin, mais... À titre personnel, ce qui m'a marqué, c'est forcément la deuxième partie de saison de Lyon. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans l'histoire du foot français, voire qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, puisque les records ont été battus et les pronostics déjoués. Voilà, merci. On a vécu une saison entière plus riche en émotions que les trois quarts des saisons qu'on a vécues ces dernières années. Et voilà, quoi. C'est top de voir où en est aujourd'hui le club par rapport à là où il en était encore il y a un an et demi, quoi.
Merci Léo. Ibrahima ?
Bah, je vais pas être original, mais on peut passer à côté, donc je vais dire la CAN aussi. Hein. Moi, pour le coup, j'y étais pas. J'étais à Paris.
Tous la CAN, quoi.
Mais en termes d'émotion, franchement, c'était assez incroyable. En tant que supporter de la Côte d'Ivoire, en plus, on est passé de tout à tout, là. Donc, ouais, c'était assez fort, quand même.
La CAN, bien évidemment, a procuré pas mal d'émotions dans le monde, même à travers les origines et à travers cette compétition magnifique. Bien évidemment, Lucas qui monte.
C'est quoi l'autre? Moi, je crois que c'est déjà lequel c'est.
Toi, ah oui, tu penses que c'est lequel?
Voilà, finale du Real Madrid qui s'impose contre Dortmund et qui remporte la 15e Ligue des Champions.
Non, c'est pas même ça. C'est même pas ça. moi, réellement, je peux vous dire en termes, et c'est vraiment un avis neutre.
L'élimination du Mali.
Non,
j'y pensais, c'était mon deuxième guess.
Non, du tout.
Terrible.
Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je préfère retenir les bonnes choses de chaque année. Vous tous, vous avez évoqué quelque chose qui vous a plu, pas quelque chose qui vous a déçu, notamment. Du coup, moi, très rapidement, moi je vais dire d'une façon très neutre hein, dans le football, ce qui m'a vraiment ce que j'ai vu vraiment qui a choqué, c'est Rossellou, le doublé de Rossellou face au FC Bayern à Santiago Bernabéu en 2 minutes, le renversement de situation, c'est bien, c'est ce fait marquant qui m'a vraiment marqué sur l'année 2024 et voilà, mais j'espère qu'en tout cas vous avez passé une très bonne année et que vous en passerez une très bonne aussi. Nous, on sera là en tout cas pour vous accompagner et j'espère que vous serez là aussi. On vous remercie, prenez soin de vous, très bonne fête à vous tous et on se voit très rapidement à la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous, bonne soirée à vous.
Salut.
Salut.
Okay.